Allez, amis trésistes du soir, bonsoir, la 13e heure, numéro 2 en cette saison 2010. Et cette fois-ci, on se retrouve à Perpignan, du côté du quartier Mayol, chez l'ami Miguel, trésiste de la première heure, non pas de la 13e heure, avec beaucoup de maillots de l'hémisphère sud, des maillots anglais également, les maillots évidemment des dragons catalans. Donc on est vraiment un fief trésiste. Et autour de moi, eh bien, le gratin du rugby à 13 français, un parterre de trésistes connus et reconnus. En l'occurrence, à ma gauche, eh bien, c'est la voix du rugby à 13 français, mais c'est aussi la plume, puisqu'il travaille également à l'indépendant. C'est Bruno Ontagnente de France Bleu Roussillon. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Alain.
Effectivement. À ses côtés, Hervé Guiraud, qui est un des piliers de l'émission depuis l'année dernière d'ailleurs. Également Louis Bonnery, mais on revient sur Hervé Guiraud pour la présentation quand même. Excusez-moi. Même succincte, c'est quand même important. Hervé Guiraud qui n'est autre que monsieur le vice-président de la Fédération Française de Rugby à 13, pas rien quand même.
Non, c'est une erreur. Je ne suis plus vice-président, secrétaire général.
Secrétaire général.
C'est pas très grave.
Allez, on rectifie le
temps. La voix, mais la voix VOIE.
Rugby à 13. Face à lui, bien, un autre pilier, parce qu'il faut toujours deux piliers dans une équipe. Donc voilà, c'est notre ami Louis Bonnery, qui est actuellement le président de la Ligue Languedoc-Roussillon. Je ne me trompe pas cette fois-ci. Voilà, qui est toujours fidèle au poste. Face à moi cette fois-ci, eh bien, c'est un petit nouveau, puisque quoi que non, il avait déjà participé à une émission dans son fief, à Ille-sur-Tête, la patrie de Jean Gallia. C'est Bernard Young, ancien international, ancien joueur du 13 catalan de Carcassonne, et a priori je n'ai pas oublié Ille-sur-Tête, ça va de soi, et surtout ancien entraîneur de l'équipe d'Ille-sur-Tête. René Montala, qui est toujours là, ça rime, en plus ça va très bien. René Montala, sans qui l'émission n'existerait pas, car c'est lui le grand technicien et qui est toujours derrière nous. Donc voilà, merci René, merci d'être là, qui est également à la Peña de Saint-Cyprien.
Merci,
voilà.
Bonsoir, et j'arrive avec ma flopée de questions pour tout le monde.
Ce sera très intéressant, on va y venir. À ses côtés, Christian, le caméraman, qui va donc diffuser les images très prochainement, dès demain visiblement, pour Forum Rugby 13, pour la 13e heure. Et puis, un grand monsieur, non pas par la taille, mais ça c'est trop facile, je crois qu'il est un peu habitué à ça, un grand monsieur qui, allez, on va le dire franco de port, qui est le fils spirituel de Jean Gallia, pour nous du moins, parce que sans lui, eh bien, les dragons n'existeraient pas. Le rugby à 13 n'aurait pas cette visibilité qu'il a aujourd'hui. C'est bien sûr Bernard Rouache, le président des Dragons. Bonsoir Bernard.
Bonsoir à tous, bonsoir.
Voilà, donc on a fait un tour, puis on en a oublié Cyril, notre technicien aussi, sans qui on ne serait pas là ce soir, puisque voilà, impossible d'enregistrer sans lui. Donc merci d'être venu Cyril. Donc on va lancer l'émission, et bien évidemment on va parler des Dragons, ça va de soi. Elle va être découpée en trois fois, c'est-à-dire une première demi-heure consacrée à l'équipe professionnelle. On va après attaquer un petit peu l'actualité générale du rugby à 13, en l'occurrence l'Aller, l'équipe de France, pourquoi pas, Toulouse, etc. Donc progressivement on viendra dans le vif du sujet. Et puis la troisième demi-heure sera consacrée à nouveau aux Dragons. Donc on va commencer bien par un point négatif, hélas, puisque la saison a débuté voilà maintenant en 15 jours. Et puis on a débuté malheureusement sur deux défaites, une plutôt rassurante malgré tout à Wakefield, et puis une plutôt inquiétante à Londres avec une équipe un petit peu timorée. Donc on va s'adresser de suite au président. Bernard, une première analyse sur ce début de saison.
Un début de saison qu'on espérait meilleur. On s'était donné comme objectif sur ces deux premiers déplacements, une victoire sur deux, c'était le minimum. On savait qu'on aurait un match très dur à Wakefield, parce qu'on sait que cette équipe de Wakefield, sans grandes stars, sans internationaux, qui se prépare depuis le 1er décembre, on sait que ce genre d'équipe, préparée depuis avec 2 mois et demi de préparation et 4-5 matchs de matchs amicaux, fait partie de ces équipes qui sont prêtes en début de saison. Donc on s'attendait donc à Wakefield à un match très difficile. Et malgré nos pépins de dernière minute, parce qu'il faut quand même savoir qu'on joue quand même de malchance pour démarrer cette saison, puisque le jeudi après-midi, l'équipe type était pratiquement annoncée sur le terrain, et que du jeudi au dimanche, 4 joueurs ont fait défaut, et l'on est moindre, puisque la plus grosse blessure, c'est celle de Thomas Bosque, la plus embêtante aujourd'hui, hein, puisque je crois qu'il va être encore indisponible pendant 4-5 semaines de plus. Donc Thomas Bosque qui se fait mal tout seul, Thomas Bosque qui avait pris en main un petit peu les destinées de l'équipe depuis quelques semaines, puisqu'il avait été nommé capitaine. dont l'absence de Thomas Bosque, l'absence de Fakir, l'absence de Carlo, et le jour même du match, l'absence de Greenshield. Donc je crois que pour un premier match, ça faisait peut-être beaucoup à Wakefield, mais un score de 28 à 20, une prestation fort honorable, devant je vous dis, une équipe difficile à manœuvrer, devant un public féroce à Wakefield, c'était pas trop mal démarré la saison. Par contre, tâche plus dure, grosse tâche à Londres, où je pensais vraiment que l'équipe récupérant en plus Greenshield, Fakir et Carlo, je pensais que l'équipe allait réagir à Londres. Et malheureusement, l'équipe s'est disloqué un petit peu, s'est mis au niveau de cette équipe de Londres, qui était une équipe jeune, avec beaucoup d'envie, mais qui restait une équipe prenable. Et c'est vrai qu'on a complètement déjoué à Londres. Alors c'est vrai qu'on aurait espéré meilleur départ, mais c'est encore comme ça cette année. Je crois que la malchance nous poursuit un petit peu en ce début de saison, puisqu'encore une fois, hier, Jean-Philippe Bel s'est fait tout seul encore une fois lors de l'entraînement une très grosse entorse de la cheville. Donc bon, début de saison difficile, et puis surtout un match qui approche contre Saint-Hélène's, capitale samedi. Voilà.
D'accord, donc on peut parler de déception forcément en début de saison.
Vous savez, quand on a fait la demi-finale du championnat de Super League au mois d'octobre, avec en s'inclinant que de 7 points à Leeds, on espérait mieux, surtout que les trois recrues sont quand même trois grosses pointures de NRL. Donc c'est vrai que malgré les départs de Rice et de Bird, ces trois recrues devaient pallier donc à ces départs. On nourrissait de grosses ambitions pour cette saison, mais qui sont un petit peu retardées par ces deux défaites. Bon, maintenant, je demande d'avoir samedi.
Bruno, toi qui étais justement des deux déplacements, puisque France Bleu Roussillon couvre systématiquement tous les matchs à l'extérieur, est-ce qu'il y avait vraiment une différence palpable entre les deux rencontres?
Ah oui, enfin moi j'ai vraiment vu deux équipes des Dragons diamétralement opposées. Une équipe des Dragons, comme l'a précisé le président Bernard Rouache, où vraiment entreprenante, et au niveau du collectif, on sentait que pour un premier match, il se passait déjà quelque chose. Donc c'est vrai que ça, c'était encourageant pour la suite. On se dit c'est un premier match, l'équipe collectivement elle se trouve, une charnière qui avait été un petit peu modifiée avec l'absence de Thomas Bosque, l'absence aussi de Casey Maguire qui a dû être repositionné au poste de demi-mêlée, Grégory Mounis qui avait jamais joué en Super League au poste de talonneur, qui s'en sort plutôt bien sur cette rencontre. Et puis on se dit à Londres qui vient de prendre 58 points à Warrington, en remettant Casey Maguire au talonnage, les Dragons espéraient qu'au niveau de la transmission ça aille plus vite, et ça n'a vraiment pas été le cas. Collectivement, beaucoup de déchets, et puis surtout une équipe très très longue autour du tenu, dans les passes, une équipe qui se cherchait, qui au cinquième tenu ne savait pas trop quoi faire, qu'est-ce qu'on va faire du ballon. Et puis en face, une grosse équipe des Harlequins au niveau du mental, au niveau de l'envie, au niveau du courage. Une équipe qui n'a pas brillé, mais qui au niveau de tous ces paramètres-là a vraiment prévalu, a pris le dessus sur les Dragons. Et c'est vrai que ce qui était inquiétant à regarder cette rencontre, c'est de voir ce courage et cette abnégation dont on fait preuve cette équipe d'Harlequins. Ça, c'est une équipe des Dragons qui a quand même subi, même si défensivement elle n'a pas été catastrophique, pas mal, heureusement, parce qu'ils ont été privés de nombreux ballons. Ils ont perdu la plupart de tous les ballons. Ils ont fait que défendre, et ils n'ont pris que 3 essais. Donc ça, c'est peut-être le seul point positif, la défense. Mais c'est vrai que collectivement, il y a vraiment du boulot, quoi.
Ouais, ça c'est paradoxal. Généralement, un collectif qui se cherche, qui est en chantier, trouve peu à peu des repères. Et puis là, ça a été justement l'inverse, quoi. On a l'impression que les deux matchs ont été inversés. Un petit avis, Louis, Hervé, sur ce début de saison. Pour vous, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter, ou est-ce que cette équipe a des capacités pour pouvoir rebondir dès samedi contre Saint-Hélène's?
Moi, je crois qu'il faut se mettre quand même tous dans le concept de la Super League, qui est une compétition impitoyable. Bon, on parle des Dragons, mais mettons-nous à la place des gens de Leeds qui n'ont pas gagné un match, qui sont exactement dans la même situation que les Dragons aujourd'hui. C'est le champion en titre. Voilà, je crois qu'il faut quand même toujours garder présent à l'esprit que dans cette compétition, et les Dragons l'ont montré la saison dernière, c'est que dans une saison qui n'a pas forcément satisfait le public à Brutus, c'est une équipe qui a fait un parcours extraordinaire en fin de saison, alors que peut-être on ne l'attendait pas. Donc tout est possible, parce que toutes les équipes sont des équipes de très grande qualité, qui est la moindre erreur, le moindre dérèglement là-dedans peut avoir des conséquences dramatiques. Et je crois que personne ne doit s'inquiéter. On est à deux matchs, la saison est longue, mais c'est vrai que je reste quand même moi aussi un peu comme ce public qui depuis 6 mois, en gros, hein, à quelques jours près, n'a plus vu son équipe sur son terrain et qui reste un peu frustré sur la saison et qui vit dans ce que beaucoup n'ont pas vu parce qu'ils n'ont pas vécu la fin de saison et qui vit sur cette idée de ce parcours extraordinaire qu'ont fait les Dragons dans les play-offs l'année dernière. Donc je crois qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais il faudrait peut-être que maintenant, il faut un match référence qui vraiment positionne les Dragons de nouveau à Brutus, comme il l'avait fait les saisons dernières, et qu'on n'en discute plus. Après, gagner un match en perdant, c'est pas les aléas, c'est la réalité de la compétition de la Super League.
Alors justement, pour en revenir à ces deux rencontres, là, et notamment la dernière, les trois recrues australiennes, justement, Johnson, a priori, égal à lui-même au niveau des plaquages, au niveau du volume de plaquage. Et puis, visiblement, donc, les centres, ça et Walker, un petit peu en dedans, info ou un talk, Bernard?
Non, pas du tout, je ne pense pas. Non. Je crois que bon, Dallas Johnson bon, est égal à lui-même, c'est un gros défenseur, on le savait. Donc il joue au milieu du terrain. Donc il a aujourd'hui peut-être un petit peu de mal à trouver sa place dans le domaine offensif plutôt. C'est là où peut-être que le bas blesse. Mais enfin, je vous dis, Thomas Bosque qui a pris un petit peu les rênes de l'équipe depuis quelques semaines et ne jouant pas. Donc c'est vrai que ça met un petit peu en difficulté la charnière. Donc bon, Dallas Johnson a quelques soucis un petit peu offensifs. Quant aux deux centres, non, moi aux deux centres, je dirais que les deux centres ont été les joueurs dimanche dernier les plus entreprenants et les plus décisifs sur quelques actions. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas davantage de ballons. Donc je crois que enfin nous avons deux centres de grand niveau. Et je crois que ce qu'ils demandent, c'est des ballons pour prouver qu'ils sont capables justement eh bien, de franchir, de marquer, d'animer cette ligne de trois quarts et de l'animer. Voilà, donc je ne suis pas du tout mécontent des prestations des nouveaux joueurs. Vous savez qu'il est très difficile aussi de s'adapter entre la NRL et la Super League, les conditions ne sont pas les mêmes. Donc non, moi j'ai confiance justement en ces trois joueurs. Voilà, bon, je vous dis, c'est un problème aujourd'hui collectif, c'est un problème de liaison. Bon, mais j'espère que rapidement ça va rentrer dans l'ordre.
D'accord, on parlait de liaison, puis on va revenir vite fait sur Thomas Bosque avec sa nomination en tant que capitaine. C'était un peu la grosse surprise. Je crois que tous les supporters qui ont ouvert le journal le lendemain de l'annonce ont été surpris. Hervé, toi qui as joué à la charnière, connaissant le garçon qui est plutôt introverti, est-ce que c'est un cadeau qu'on lui a fait ou est-ce que c'est un cadeau empoisonné?
Non, pas du tout. Thomas, c'est un garçon lucide, très calme, lorsqu'on le connaît très bien. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc, de se retrouver le capitana, non, c'est pas du tout. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait normal. En plus, c'est l'enfant issu de l'école de rugby. C'est la représentativité quand même du 13 dans la région. Et Thomas est tout à fait à son poste, puisque c'est quand même quelqu'un qui pèse aussi énormément sur le jeu, d'où sa position. C'est quelqu'un qui maîtrise ce jeu, qui tape, qui pèse sur le collectif. Et ce que disait Bernard à l'instant est tout à fait intéressant. Bon, moi je suis comme Bernard et je ne remets pas du tout en cause la qualité des trois Australiens. Le recrutement a été parfait cette saison. Là où il touche un peu, là où il a fait toucher du doigt, c'est peut-être ce manque de ballon qui n'arrive pas justement sur nos deux centres. Ouais. Et là, je pense que ça va être le travail du collectif de Kevin Walter de faire arriver le ballon à ces garçons qui sont pleins de qualité. Mais là aussi, je fais tout à fait confiance à ce collectif des Dragons, au travail de Kevin Walter. Et je reviens au propos de Bernard. Cette blessure de Thomas Bosque tombe très mal puisque ça fait 2 mois qu'on travaille, que cette équipe travaille avec Thomas Bosque à la baguette et se retrouver à 8 jours du championnat avec justement le maestro blessé. Bon, et il y a forcément des répercussions sur le collectif. Donc moi, écoutez, je ne me fais aucun souci. Bon, vous me direz, je suis d'un caractère optimiste, c'est vrai. Mais bon, je pense que dimanche, samedi, c'est le moment idéal. C'est les Saints qui viennent à Perpignan. Il y a 5 ans, le 11 février, je ne me souviens plus de l'année, il y avait Wigan à Aimé Giral. Personne n'aurait parié un copec sur les Dragons. Et à la sortie, tout le monde...
Il y a micro Lou,
tout le monde à la fin s'est embrassé et je crois qu'il ne manque que ça. Le public, c'est vrai, a envie de voir ces Dragons.
Ce jour-là, en février 2006, il y avait Stacey Jones quand même, je crois.
Il y avait ces situations.
On l'a un peu trop oublié. Je crois que dans cette compétition, des joueurs comme ça aujourd'hui font la différence. C'est peut-être le joueur qui nous manque cette année encore.
Moi, j'ai en mémoire encore cet essai à la fin de la partie amené par Cécy John, et c'est Julien Rinaldi qui a marqué au milieu de 4 Wiganer. Bon, écoutez, on ne vit pas que de souvenirs, mais je pense que tout va. Voilà, c'est très bien, Bernard.
Alors, on va baptiser tout ça, on va baptiser le feu. Louis, tu n'étais pas d'accord avec Hervé, pour quelle raison?
Non, mais moi, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, mais on n'était pas nombreux, mais on avait misé. Moi, je pense que c'était dans le journal que tu animais. J'avais donné mon point de vue, j'avais pronostiqué une victoire des Dragons. Donc, j'étais totalement confiant dans l'enthousiasme, et je crois qu'il faut que les Dragons retrouvent ça, parce que c'est tout le monde de l'attaque. En fait, l'année dernière, on a cru qu'en un moment, et puis les Dragons sont revenus, ont piétiné un peu pour des playoffs, mais que je reviens toujours sur cette situation. Les playoffs ont été quelque chose sportivement d'extraordinaire pour les Dragons, mais personne ne l'a vu ici. Et il faut que le public, qui est fidèle, parce que quand même, il faut remarquer que ce public n'a jamais abandonné les Dragons, même dans l'adversité, même quand les moments ont été difficiles, là, en particulier la saison dernière, le public a toujours été là, les statistiques le montrent, peut-être une petite baisse un peu qui peut se comprendre pour d'autres raisons, mais ce public, il est toujours là, et il soutiendra les Dragons, et il a besoin de ce match référence qui manque depuis à Brutus, parce que des matchs référence, les Dragons les ont eus l'an dernier dans les playoffs, mais pour le moment il en manque un vrai, comme nous en avons connu Wigan, Saint-Hélène déjà, Leeds, voilà, ça c'est des matchs référence. Il manque ça à Brutus à l'heure actuelle, et tout sera reparti de plus belle.
Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que l'an passé, on avait ce bonheur de voir le paquet d'avant être dominateur. Et là, d'après le commentaire de Bruno, même qu'il se soit trompé ou qu'il ait bu une bière le trop, je sais pas, mais a priori, le paquet d'avant a souffert face à Londres, chez qui il manquait du monde, quoi. Alors, est-ce que là aussi, il y a des questions à se poser?
Alors, c'est peut-être le problème aussi de la transmission avec Casey Maguire, le fait que Londres, avec cette grosse envie autour du tenu, la rentrée de Louis McCarthy Scarborough, qui a vraiment fait un très très gros match, Danny Ward aussi, ont vraiment été impressionnants. Et puis c'est une équipe de Londres qui a pilonné dans l'axe, qui s'est pas embêté, qui a pas pris tous les risques, y compris les Dragons. On a vu Adam Bock chercher du monde régulièrement, William Barto partir aussi en travers, ça lui venait pas à hauteur. C'est vrai que la force de frappe, c'était le paquet d'avant des Dragons catalans, mais je pense que ça le reste aussi, parce qu'on voit que l'équipe des Dragons, en regardant la presse britannique, écrin, ce paquet d'avant écrin. Il a vraiment rivalisé avec l'équipe de Wakefield. Quand on voit qu'en face, Korkidas et Tronk ont sorti vraiment une très très grosse rencontre, ils ont rendu le double au niveau en mètre gagné par rapport à Jérôme Guisset, par rapport à David Ferriol. Mais c'est vrai que tant qu'il y a Jérôme Guisset, tant qu'il y a des David Ferriol, Olivier Nima, Cyril Gossard, ça recule pas. On a d'ailleurs vu avec plaisir, on a pu apprendre hier que David Ferriol n'a pas été fort justement sanctionné d'un match de suspension. Le carton rouge très sévère à son encontre à 12 minutes du coup de sifflet final, au moment où David Ferriol est au sol, il récupère un ballon et puis il prend deux genoux dans le dos, il se lève, il se fait un peu violence, mais bon, il se fait violence de la main gauche. Quand on connaît David Ferriol, si ça avait été de la main droite, à 2-3, le joueur se serait jamais relevé. Donc, on voit, pour une fois, la commission de discipline n'a pas été trop sévère. Elle a été avec Rémi Cassi une semaine auparavant, quand on voit le plaquage de Rémi Cassi, quand on voit tout ce qu'a pris Cyril Gossard tout au long de la rencontre, c'est vrai que ça avait été un petit peu... Mais j'ai l'impression que les avants des Dragons catalans jouent un petit peu avec le frein à main par rapport à cette indiscipline. Ils sont vraiment surveillés. On sait que David Ferriol, que Jérôme Guisset surtout, et Olivier Lima sont vraiment surveillés sur le tenu, autour du tenu. Donc est-ce qu'il y a peut-être ce frein à main qui fait que d'habitude on les retient un petit peu plus longtemps au sol, ces joueurs de Londres, ces joueurs de Wakefield? Et puis on a vu une équipe de Londres qui a travaillé davantage au sol, qui ne s'est pas fait pénaliser une seule fois pour ralentissement du tenu. Donc il va falloir trouver ce petit truc qui manque. Mais une chose est certaine, c'est que les avants les Dragons catalans sont craints, et encore plus maintenant qu'il y a un certain Dallas Johnson au milieu.
D'accord. Bon, on n'est pas trop là pour faire dans le sportivement correct, on est là pour parler à bâton rompu. L'arbitrage, ça donnait quoi sur ces deux matchs? Parce qu'on peut en parler jusqu'au bout de la nuit, mais qu'est-ce que ça a donné sur Wakefield et Londres?
Mais sur Wakefield, c'est vrai qu'un arbitrage qui a une feuille de plus est un petit peu long, c'est-à-dire au moment du sifflet, on a l'impression que les joueurs adverses se mettent à râler, le public râle, et puis là, l'arbitre a sifflé beaucoup trop de ralentissement du tenu.
Chez nous
du côté des Dragons catalans, un arbitre qui a aussi compensé, parce que ça finit à 12 fautes à 11 entre les Dragons et Wakefield. Quelques fautes quand même importantes des Dragons catalans, comme Olivier Lima qui retient un joueur au sol, c'est Timatassa qui se fait justice lui aussi lui-même, et un arbitrage plus correct cette semaine. Il n'y a pas eu de ralentissement.
C'était Thierry Oliver ou quoi? Non,
cette semaine c'était Richard Silverwood. Richard Sevalou qui est un des meilleurs avec Ian Smith de Super League. Non, on peut pas vraiment crier sur l'arbitrage par rapport au match du Stoop. Enfin, pour moi, Bernard, Stoop de Twickenham.
Non, non, je pense que à Londres, l'arbitrage a été très correct. Bon, c'est vrai qu'il est, il est un petit peu dur sur l'action de Ferriol, parce que quand même, David Ferriol est agressé sur un plaquage. Alors, il se fait justice lui-même. Bon, effectivement, je pense qu'un jaune aurait largement suffi. Et sinon qu'un avertissement aussi peut être suffisant. Bon, à part ça, Silverwood a bien arbitré. Je veux dire, on a connu pire.
Bon, Ferriol, ce qui allait bien par contre, c'est qu'il a du très bon pinard, parce qu'on a une bouteille sur la table, le Dragon Spirit Malpère. C'est le vin qui est conçu par David Ferriol avec derrière sa photo. Et c'est plutôt sympathique. Voilà, on lui fait un petit coup de promo pour les amateurs. C'est un très bon rosé, ouais. On va le tester tout à l'heure au repas. Bon, alors samedi, il va y avoir du chocolat, comme on dit chez nous. Ça va être très chaud face à Saint-Hélène. Qui voit ce match positivement pour nous ? Hervé, Bernard, qui n'a pas encore dit un mot et qui a habitué des joutes difficiles.
Moi, c'est moi ce qui me tient un peu en alerte, c'est le fait que l'on ait perdu deux matchs à l'extérieur, qu'aujourd'hui on cherche un match référence, entre guillemets, contre Saint-Hélène. Cette année, c'est pas le premier venu, c'est une grosse écurie, donc c'est quelque part un peu inquiétant. Le joueur va avoir la pression supplémentaire parce que jouer à Brutus devant un public qui va être survolté, vu que ça fait 5-6 mois qu'on n'a pas joué ici à Brutus, les gens n'en peuvent plus, ça va crier, ça va être chaud. J'ai peur que les joueurs soient un peu trop complexés et peur de et trop de pression pour réussir leur match samedi, quoi. Ça aurait été préférable avec une victoire extérieure pour être un peu plus lucide et un peu plus tranquille dans la comment dire, pour aborder ce match, quoi.
Et moi, ce qui m'a rassuré, c'est vrai que dimanche, pour être resté à l'hôtel, forcément avec les joueurs au Stoop, à côté à Twickenham, là, à l'enceinte du fameux stade anglais, j'ai vraiment vu les joueurs déçus de leurs prestations et conscients surtout du match qu'ils venaient de rendre, de la copie qu'ils venaient de fournir. Donc, on a vraiment vu une équipe qui n'avait pas envie d'avoir honte à domicile. Ils savent que le public a été frustré, comme on en a parlé, de ne pas avoir vu les Dragons catalans lors des quatre matchs de play-off, enfin des trois matchs de play-off plus la victoire mythique à Saint-Hélène. Donc les joueurs étaient concernés, et ça m'a plutôt rassuré, concerné, puis conscient du match qu'ils venaient de fournir. Olivier Lima le premier, conscient de toutes les fautes qu'il a pu effectuer, Casey Maguire, enfin, tous les garçons étaient sensibles par rapport à cette défaite. Donc espérons que ça soit un plus et un avantage pour Saint-Hélène.
Ouais, c'est des vrais professionnels. René, en tant que supporter inconditionnel des Dragons, alors est-ce qu'il y aura quelque chose de particulier samedi? On sait qu'il y a une superstar qui vient nous donner le coup d'envoi, je crois que je ne sais plus qui c'est, Greg le millionnaire, non, c'est ça?
je ne sais pas.
J'ai loupé un Greg le millionnaire.
On est surpris. Non, je ne sais pas. Moi, pour en revenir un petit peu au match des Harlequins, qu'on n'a pas vu, parce qu'il y a un moment qu'on est frustré d'image, même si pas frustré par le son, mais par l'image. Ouais. Ce que je veux dire à Bernard, c'est que nous, les supporters, on en a parlé avec Bernard Lyon. On a l'impression que la Super League n'a pas encore commencé pour nous. Tout ça s'est passé, et oui, je sais Bernard, tout ça s'est passé loin de nos bases. Et effectivement, c'est vrai encore une fois d'images, heureusement qu'on a la radio, on attend samedi avec impatience. Hein. Et effectivement, je pense que les gens de Saint-Hélène arrivent au bon moment, surtout pour nous. Alors Bernard, juste, je voulais, parce qu'on a parlé du match des Harlequins, mais on n'a pas encore parlé de la prestation de Barthaud. Et ça intéresse beaucoup de monde. La prestation de Barthaud intéresse du monde. Alors, moi, j'ai les stats sous les yeux, là. J'ai l'impression qu'il a fait une bonne partie ou une bonne rentrée pour son premier match. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Bruno ou Bernard? Tous les deux, vous étiez là-bas présents.
Alors, oui, non, je crois qu'il était important déjà d'aligner William Barthaud. William Barthaud, c'est un jeune qu'on a pris il y a déjà trois saisons et que l'on prépare. Parce qu'on était persuadé que ce joueur-là est un joueur d'avenir, qui est un joueur qui est de qualité. Donc moi, je suis très heureux déjà qu'il ait pu déjà officier à la Super League. Officier à Londres pour un premier match, hein, c'était plus facile pour lui qu'éventuellement rentrer contre Saint-Hélène ce samedi. Et j'ai été très heureux de le voir sur le pré, bien entendu, et heureux de la prestation parce que il a joué ça sans complexe du tout. Il a énormément défendu et il a montré sa capacité donc à rivaliser physiquement pendant 80 minutes sur un match de Super League. Donc déjà c'est un très bon point. Ça prouve que la préparation qu'il a subie, puisqu'il est arrivé ici, il avait 17 ans, donc il en a 20 tout juste aujourd'hui. Donc ces 3 ans de préparation ont été bénéfiques et qu'il a tenu la route, qu'il a tenu la dragée haute pendant 80 minutes de match de Super League. Après, les exploits de Barthaud. Je n'ai aucun doute là-dessus. Les exploits de Barthaud vont arriver. Et ils arriveront très rapidement, et peut-être même qu'ils vont déjà arriver samedi s'il est à nouveau aligné. Et j'espère qu'il sera encore aligné, parce qu'après un match d'une telle... un match très difficile qu'il a vécu à Londres. Je vous dis, l'équipe s'est mise au niveau de l'équipe de Londres. Et c'est difficile quand un collectif baisse son niveau de jeu. Pour un jeune, il est très difficile pour un jeune de ressortir dans ce match. Physiquement, il a tenu la route. Et je vous dis, les exploits de Barthaud vont arriver.
Juste pour te dire qu'effectivement, puisqu'on a les stades de Barthaud, il a quand même réussi 32 plaquages.
C'est énorme. Physiquement,
Morgan a fait 24.
Donc physiquement, il a été à la hauteur. Physiquement, voilà. Mais il faut quand même savoir que il y a un grand entraîneur quand même à Londres. S'il n'y a pas une grande équipe à Londres, il y a un grand entraîneur qui s'appelle McDermott, qui connaît très bien son rugby et la compétition. Et ils avaient fait de Barthaud un petit peu la cible. Et moi, je salue la presse. La cible ou un spot. Voilà, un terme australien. Et William Barthaud a été énorme dans le courage, dans la vaillance et dans le combat physique. Il a répondu présent au combat physique. C'est déjà énorme pour un joueur comme ça.
Mais c'est vrai que Thomas Bosque était déjà pris pour cible côté gauche. William Barthaud était placé côté gauche, mais le fait que William effectue 32 plaquages, il a été ciblé comme le sont tous les demi. Leon Price est ciblé quand les Dragons catalans le jouent. Danny Brough, Jeffries l'ont été face à Wakefield. Mais c'est vrai que le problème, le fait qu'il ait fait 32 plaquages, c'est aussi parce que à côté de lui, les joueurs n'ont pas réussi à casser la ligne, ne sont pas montés assez vite pour enrayer un petit peu cette déferlante des joueurs de Harlequins qui l'ont spoté comme ça se fait tous les dimanches, comme on spot tous les demi. Mais il était pourtant à gauche, à côté de son ailier. Les joueurs d'Harlequins ont réussi quand même à aller jusqu'à lui. C'est qu'avant, le boulot n'a pas été fait.
Oui, mais sur un plan tactique, là, quand même, bon, on sait, est-ce que intrinsèquement, à l'issue du match de Londres, bon, qu'on n'a pas vu, hein, est-ce que vous pensez, ceux qui étaient présents, que c'est finalement sur un plan purement tactique que Londres a réussi, alors que les qualités collectives des Dragons seraient supérieures à l'équipe de Londres? Parce que tactiquement, bon, essayer de faire tomber une équipe dans son niveau de jeu qui correspond à ses capacités, c'est de bonne guerre. C'est le principe même du rugby. Bon, la force, c'est d'essayer de ne pas y tomber. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'on a perdu un match, qu'on a été dominé dans tous les compartiments du jeu. Donc c'est ça qui est important, quoi.
Non, on n'a pas été dominé, on est tombé dans le panneau de cette équipe. On est tombé dans le ronron de cette équipe qui a monopolisé le ballon. Effectivement, on a fait beaucoup de fautes, on a perdu beaucoup de ballons, et eux les ont bien utilisés, mais en jouant très simplement. Bon, ils ont une paire d'essais quand même très chanceux, il faut l'avouer. Il y a un coup de pied de 50 mètres dans les bras de l'ailier. Bon, effectivement, on le réussit une fois sur trois. Bon, donc c'était très très bien joué, mais très heureux aussi. Il y a des matchs comme ça, où c'est très difficile, où malheureusement on n'y arrive pas.
Juste une question, on n'était pas sur place, donc on essaie d'imaginer la situation. Donc il a réalisé 32 plaquages en étant pratiquement positionné en tant qu'ailier. Donc forcément, ils ont joué sur les extérieurs. Mais c'est quand même surprenant, 32 plaquages, prendre une mêlée, positionné à cet endroit-là. Bruno, j'ai un peu du mal à saisir.
Oui, c'est parce qu'avant lui, les joueurs sont côté droit, parce qu'il est complètement à gauche, n'ont pas réussi à casser la ligne, à monter rapidement et empêcher les joueurs d'Harlequins, ou alors ça a mal chassé, de venir le spotter, comme ça arrive régulièrement. Thomas Bosque défend au même endroit que lui, il est spoté par toutes les équipes aussi, et il ne réalise pas 32 plaquages.
Mais il faut quand même savoir qu'il était en face de Club ouais, qui est un 3/4 centre, ouais, qui fait 1m90 pour 105 kilos, qui est quand même un des meilleurs joueurs de cette équipe de Londres. Et effectivement, Londres a énormément joué sur ce côté droit, donc côté gauche de Barthaud, en face de Barthaud. Et Club a vraiment pilonné William Barthaud, mais il ne s'est jamais échappé, il n'a pas manqué un plaquage, donc c'est de bon augure pour la suite.
Alors on a parlé aussi d'un jeu au pied qui était déficient, est-ce que c'était vraiment le cas à Londres?
Enfin, moi je le trouvais vraiment déficient au cinquième tenu, que ce soit au quatrième ou au cinquième tenu. Quand Kevin Walters insiste, quand il voit que l'équipe est dominée, pour mettre la pression et construire la pression dans le camp adverse, ben, on avait l'impression qu'Adam Bock tapait pour taper. William Barthaud a tapé aussi sur l'arrière, Casey McGuire a tapé. C'est vrai qu'en première période, sur le jeu au pied, les dragons n'ont pas été performants du tout. Kevin Walters m'a confirmé qu'il a essayé à la pause de rectifier un petit peu le tir. Le jeu a été un petit peu mieux en deuxième mi-temps, mais c'est vrai que les coups de pied d'Adam Morgan en première mi-temps n'ont pas été extraordinaires.
Voilà, justement, voilà, je voulais venir à ça.
Ouais, mais là, encore une fois, je crois que le jeu au pied, c'est l'apanage de Thomas Bosque. C'est Thomas Bosque qui prend le jeu au pied à son compte. Donc je crois que Adam Morgan est une ouverture d'occasion un petit peu sur une fin de carrière, puisque c'est un joueur qui a joué beaucoup trois quarts aile, qui a joué trois quarts centre, qui joue demi d'ouverture, qui a été placé de meilleure tour par Mick Potter il y a déjà deux ans, mais qui est capable d'alterner des bons et des mauvais matchs. Donc, il faut, on ne peut pas, on ne devient pas une demi-meilleure tour, on est demi-meilleure tour, on est demi-meilleure, et il est très difficile de le venir. Adam Mogg a des qualités de joueur individuel hors du commun, ce qui lui permet sur certains matchs, quand l'équipe avance, quand l'équipe est dans une bonne dynamique, quand tout réussit à une équipe, Adam Mogg ressort par ses qualités individuelles, mais quand justement l'équipe souffre un petit peu et qu'il n'y a pas la présence de Thomas Boss à côté, eh bien, Adam Mogg laisse apparaître certaines carences. Mais c'est tout à fait logique et on le sait. On peut pas. Adam Mogg n'a pas toutes les qualités pour être un grand demi-ouverture.
Hervé, toi comme Bernard qui a orchestré l'ouverture durant de longues années, c'est aussi ton avis, je suppose.
Exactement. Écoutez, c'est toujours. Je tiens à saluer. C'est un grand plaisir d'avoir Bernard à notre table.
Encore en face.
Encore en face.
20 ans après, 25 ans après.
Mais là, maintenant, moi. Il m'a d'ailleurs remis au goût du Ricard ce soir.
15 ans après.
J'avais totalement oublié ce goût. Non, c'est parfait. Ouais, ça va me faire du bien, je suis persuadé, Bernard. Non, ben écoute, c'est vrai que Adam Mogg n'a pas la morphologie d'un demi d'ouverture. Bon, ça, tout le monde le sait. Bon, il est là pour les besoins de la cause, hein. Et on peut pas reprocher à ce garçon de ne pas rendre les effets que nous sommes, que les supporters et enfin, que les techniciens sont en droit d'attendre. Mais écoutez, ça fait partie aussi du rugby, du sport, et il faut patienter. Bon, c'est vrai que le jeu au pied de Thomas Boss qui est précieux dans un rugby à 13, Dieu sait si le déplacement au pied, le jeu au pied est de plus en plus précieux. Donc il faut faire avec. Bon, bah, écoutez,
je crois surtout avec que sur ce match de Londres, Adam Mogg a voulu faire beaucoup trop de choses et a voulu prendre sous son aile un petit peu William Marteau. Là, peut-être essayer de le protéger un petit peu. Je pense qu'il n'y a pas rendu service non plus. Je pense que Adam Mogg a mangé trop de ballons. Mais je crois que c'est logique pour un premier match de William Marteau. Ce que je demande à William, ce que je voudrais que William fasse dans les prochains, prendre le jeu à son compte. Je pense qu'il en a.
Il en est capable, tout à fait.
Il en est capable, il en a la qualité. C'est un véritable meneur de jeu, c'est un véritable demi, c'est un véritable créateur.
Il table des deux pieds.
Donc je crois que bon, mais il était peut-être un petit peu, timoré lors de ce premier match. Il était sous l'influence, peut-être un petit peu sous l'influence d'Adam Mogg. Je souhaite qu'il réagisse, qu'il prenne le jeu à son compte, et je pense qu'il peut nous apporter la solution, du moins pendant l'absence de Thomas Boss. Bon,
une précision, Bernard Lyon, présent à cette table, ne tapez pas les deux pieds.
Hein. Les deux pieds en même temps, ça je connaissais pas l'expression. C'est très fort ça, c'est très fort.
On tape. Sur l'affaire Barthaud, moi je pense que la grande leçon de tout ça, pour ceux qui écoutent, et puis surtout pour les jeunes joueurs qui ont des ambitions dans l'avenir sur les Dragons catalans, il faut savoir que au niveau de la Super League, la génération spontanée ou immédiate n'existe pas. Il faut un long travail de formation. Et Barthaud en est une illustration aujourd'hui. Donc voilà, moi je voudrais insister là-dessus. Il faut que ceux qui ont envie et qui se destineraient à des carrières au niveau de la Super League sachent qu'il y a beaucoup de travail, et Barthaud en est l'illustration, et c'est très bien parce que on aurait pu avoir une combinaison Barthaud-Bosque. C'est quand même des purs produits de la ferme, et c'est ça qu'il faut mettre en avant.
Je crois que Barthaud-Bosque, c'est certainement...
Voilà, alors on va un peu soulever des lièvres là. Bernard, tu disais qu'on ne s'improvise pas d'une ouverture, on est de mi-ouverture. Sachant que Thomas Boss est né de mi-ouverture justement, il joue à la mêlée maintenant. Alors est-ce qu'on n'a pas, pour ainsi dire, deux demi de substitution, deux demi qui se sont imposés, à qui on a imposé de jouer à ce poste-là, à ces postes-là?
Je crois qu'aujourd'hui, il faut différencier un petit peu le demi d'il y a 20 ans et le demi d'aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, il faut jouer avec deux demi, c'est-à-dire que chaque demi joue de son côté, dont le 7 joue d'un côté, le 6 de l'autre. Moi, ce que je demanderais simplement un petit peu à ce rugby d'aujourd'hui, c'est que peut-être le 7 prenne un petit peu plus le pas sur le 6. C'est-à-dire que le 6 peut jouer d'un côté, le 7 peut jouer de l'autre, mais ce que je demanderais surtout, c'est que le 7 puisse aller des deux côtés. Et c'est quand le 7, style Stacey Jones, style Andrew Jones, qui jouait encore il n'y a pas longtemps, ouais, et je dirais même Sean Long, souvent par le passé à St. Helens, et bien que le 7 soit capable d'animer une ligne de 3 quarts avec le 6 dans un côté un peu plus large.
D'accord.
Et je crois que c'est peut-être aujourd'hui ce qui manque un petit peu, c'est que bien la personnalité de ces joueurs-là, nous avons peut-être manqué manque de personnalité aujourd'hui à ces postes-là. Mais je vous dis, ces joueurs-là, il en sort, ce sont des joueurs d'exception, il en sort peut-être pas beaucoup, et nous sommes peut-être dans une période où nous n'avons peut-être pas encore ce joueur-là. Je souhaite justement à William Barthaud, pourquoi pas demain à Gigot, à David Gouache, eh bien de prendre leurs responsabilités et de démontrer leur talent, mais démontrer leur caractère de meneur de jeu, de créateur. Je pense que c'est un petit peu ce grain de folie qui manque un petit peu aujourd'hui à l'équipe des Dragons.
Alors je vais peut-être lancer un scoop, mais pour ceux qui ne le savaient pas, je crois bien, si mes souvenirs sont bons, que Bernard Young a débuté à l'ouverture. Sa carrière de joueur va de finir pilier. Hein. Au 13 catalan à l'époque, je ne me trompe pas, c'est bien ça dont tu peux me parler, je suppose.
Tes souvenirs, je ne sais pas.
Je les ai gardés.
Moi, je n'ai pas souvenir, tu comprendrais mon fils Léo, qui joue actuellement en ouverture. Ouais. Non.
Le souvenir vieillit mal.
Non, j'avais essayé de faire une pige à l'ouverture, mais ce n'est pas un poste qui est fait pour moi. Hein. Encore moins maintenant, vu que la masse volumique que j'ai pris, donc ce serait encore un truc. Ce qui me réjouit un peu dans les propos de Bernard Gouache, c'est que Bernard Gouache, c'est un président de club et il parle comme un coach. Et ça, c'est pour moi, c'est extraordinaire. C'est un président qui connaît le rugby, il sait de quoi il parle. Et je pense que grâce à cet homme, on peut aller loin. Quoi. Bon, on l'a prouvé déjà, on est allé loin, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Quoi. C'est pas un président de substitution ou. Comment vous dire, je sais pas, c'est un peu délicat à exprimer, mais voilà, il est là, il sait de quoi il parle, voilà, il ne se fera pas dormir par un recruteur qui veut telle ou telle personne.
Pardon, on n'a pas entendu.
Il a aussi l'énorme privilège de pouvoir faire l'échec à la fin du mois. Ça aussi, il faut le saluer.
C'est un privilège, ça.
Il faut quand même savoir qu'un président doit présider et qu'un coach doit coacher. Donc moi, j'apprécie énormément cette réunion, en plus avec les anciens, cette réunion où on va partager nos idées de rugby. Donc là, je suis plus le président, je suis l'amoureux du rugby à 13. Et mes réactions émanent de cette envie du beau jeu, de cette envie du beau rugby à 13 que j'aime. Bon, alors effectivement, des fois, je ne suis pas toujours d'accord avec les coachs. Alors, quand ils me le demandent, je leur dis ce que je pense. Et puis si je les laisse bosser, bien entendu, j'espère simplement qu'ils tiennent compte un petit peu de mes remarques, parce que mes remarques sont les remarques des passionnés et des amoureux du rugby à 13. Donc, bien sûr, il faut gagner. Hein, on est dans une compétition où il faut gagner, où il faut bien paraître. Alors moi je veux bien, mais quand on perd, à ce moment-là, il faut quand même savoir pourquoi l'on perd et comment l'on perd. Voilà. Et je crois que pour en revenir un petit peu à ce qu'on dit depuis maintenant un petit quart d'heure, la charnière, ça ne s'improvise pas. Des créateurs, des animateurs de jeu, des directeurs de jeu, eh bien, que ce soit il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, ce sera toujours les mêmes joueurs. Et je crois que sans ces créateurs, sans ces joueurs d'exception au milieu du terrain qui dirigent les autres, eh bien, on n'a pas de grande équipe. Donc, c'est peut-être aujourd'hui encore un peu, peut-être ce qui manque encore au Dragon. Mais on va travailler pour, Kevin Walters est d'accord avec moi. Mais je vous dis, ça ne se trouve pas non plus comme ça. Donc, on va travailler dans ce sens.
Bien, très bien. On va passer un petit peu à autre chose, puisque évidemment il y a des forumistes qui ont posé des tas de questions, des dizaines de questions, et c'est René Montala qui a récupéré donc tout ça, et René a récupéré tout ce qu'il avait chez lui.
Juste, je voulais faire un petit aparté avec Bernard. C'est d'abord, on est rassuré, mais on le savait, quand tu parles des jeunes, de Barthaud, de Gigot, on pourrait rajouter Simon, d'ailleurs, un futur pilier, un grand pilier, et on est content de savoir aussi que tu discutes avec que l'entraîneur te demande des conseils, et même s'il ne demande pas, je suis sûr que tu lui donnes, ça c'est certain. Voilà. Bon alors Bernard, bon voilà, on va faire une petite aparté. Il y a quelqu'un qu'on connaît bien ici, qui est de routier, voilà, et qui s'appelle Scarface. Il a posé une question à Bernard Gouache, parce que il voulait savoir comment il se déroulait le vote pour le nom de la nouvelle tribune. Alors ça les a vraiment interpellés déjà. Alors il se demande si ça va être fait par internet, si tous les supporters pourront voter, ou si tu as tout simplement déjà une petite idée. Et il te demande vraiment si est-ce que tu as une préférence pour un autre nom. Voilà,
ça c'est la première question.
Alors, non, aujourd'hui je n'ai aucune préférence pour l'instant, bien entendu. Bon, il faut quand même savoir que nous bataillons ferme depuis maintenant 2 ans pour réussir donc à élaborer, à mettre en place cette tribune, à construire cette tribune. Bon, nous avons eu toutes les garanties il y a seulement 15 jours, 3 semaines. Donc nous sommes déjà très heureux que cette tribune puisse démarrer. Donc elle va démarrer la semaine prochaine, les travaux vont démarrer après ce match de Saint-Hélène. Et à partir de là, écoutez, on réfléchit déjà effectivement depuis quelques semaines. on réfléchit donc au nom à donner à cette tribune. Je ne vous cache pas que je suis déjà sollicité de pas mal de côtés, par les anciens, par des anciens dirigeants, des anciens joueurs, par des familles même, par des familles qui m'ont déjà sollicité sur le nom de cette tribune. Alors moi aujourd'hui je n'ai aucune préférence, bien entendu, j'ai bien en moi quelques noms. Parce qu'il est certain que, mais il est certain que dès l'instant où on parle d'une, ce sera la première tribune. Il faut quand même savoir que ce sera la première tribune, la plus grande tribune du rugby à 13. C'est-à-dire que ce sera une tribune moderne, de stade moderne, une tribune où il va y avoir quand même une brasserie, un restaurant, une bodega pour les jours de masse, une boutique de 400 mètres carrés, une salle VIP de 500 mètres carrés et une loge panoramique au troisième étage, loge panoramique qui pourra abriter 500 convives dans cette loge. Alors on réfléchit. Et j'aimerais peut-être que cette tribune eh bien, soit le rassemblement un petit peu de la famille trésiste, des anciens. Vous savez que j'ai le culte des anciens, sans les anciens on n'en serait pas une année, parce que les dragons aujourd'hui c'est quand même 10 ans. Hein. On va fêter quand même au mois de juillet, on fêtera le 100 000e anglais, mais on fêtera aussi les 10 ans de l'UTC. Cette union entre le 13 catalan et Saint-Estève, puisque c'est en juillet 2000, donc en 2010 ça fera 10 ans, et rien n'aurait pu réussir si la famille n'avait pas adhéré, si la culture n'avait pas adhéré, si l'histoire. Et l'histoire c'est les anciens, joueurs, et tous ont adhéré. Et j'aimerais peut-être recréer un petit peu cette ambiance des anciens, dans cette loge, 500 personnes avec les anciens, donc on y réfléchit, et peut-être donner aussi le droit de vote, à ces gens de cette tribune peut-être, parce qu'il va falloir aménager cette tribune. Cette tribune va être rendue brute de brute, il va falloir l'aménager. C'est un grand coup d'aménager une tribune, parce qu'aménager une brasserie, un restaurant, une boutique, aménager la bodega, aménager la salle VIP, 600 mètres carrés au deuxième étage de bureau, donc c'est un coût énorme. Et j'aimerais que toute la famille participe un petit peu à cette tribune et en même temps aura le droit de vote et laisser comme ça un grand droit de vote pour une somme modique et pourquoi pas 2 000-3 000 personnes qui voteront à ce moment-là. On pourra peut-être au cours de réunions comme ça d'anciens sortir du chapeau une dizaine de noms, hein, parce que je crois qu'il y a peut-être 10 noms qu'il faut sortir du chapeau, sélectionner, et à partir de là, lancer un grand référendum pour cette tribune qui sera quand même un événement majeur et qui fera date historique dans le rugby à 13, parce qu'une tribune comme ça, dans un stade de rugby à 13, ben, on ne l'aura jamais eu encore. Donc voilà, on réfléchit à tout ça et on veut créer ce grand événement.
Bon, très bien, donc si j'ai bien compris, les supporters pourront voter certainement. Bon, bien sûr. Alors, autre chose, Bernard. Alors c'est quelqu'un de Lille, oui, oui, de Lille, qui suit le 13, il a bien du mal le pauvre. Hein. Alors je voulais savoir.
C'est louche.
Il s'appelle Nico. Il voulait savoir si dans les cartons du club, le projet d'une web TV était prévu. Parce que effectivement, encore une fois, on y revient tout le temps. On manque d'images. Bon, on est obligé d'aller sur les sites de la Super League pour aller voir les essais. Alors il voulait savoir si c'était prévu dans.
Mais effectivement, on a déjà fait quelques approches avec la Web TV, puisque nous avons fait quelques reportages avec la Web TV l'année dernière, et surtout lors des phases finales, on l'avait fait pour la finale de Wembley. Bon, bien sûr, tout ça est à l'étude, mais tout ça, c'est pareil, c'est des moyens.
Ça en coûte, oui.
Mais bien sûr, c'est des moyens. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut attendre, bien sûr, l'avènement de cette tribune, l'arrivée de cette tribune qui va changer, qui va faire passer le club dans une nouvelle dimension. Cette tribune va générer une économie nouvelle pour le club. À partir de là, asseoir le club peut-être définitivement financièrement. Donc à partir de là, bien sûr, on se tournera vers des choses qui nous manquent aujourd'hui dans le club, c'est-à-dire qu'une Web TV manque aujourd'hui au club. Alors, mais c'est dans les projets.
Justement, peut-être pour revenir sur la tribune, pour avoir des précisions, les travaux devraient commencer quand et se terminer quand? Est-ce qu'on a quelque chose de précis?
Les travaux devraient démarrer la semaine prochaine, c'est-à-dire après le match de Saint-Hélène. Les premières démolitions devraient démarrer la semaine prochaine et les travaux vont durer 10 mois. C'est-à-dire qu'à partir de là, ce qu'on veut, c'est pouvoir, nous, à la fin de l'année 2010, avoir une paire de mois, c'est-à-dire décembre, janvier, février, pour aménager notre tribune. Donc je crois que cette tribune sera finie en fin d'année.
Très bien. Nous avons notre question, mais René a la bouche pleine. René, le temps de manger.
Ah, Bernard, on continue avec Bernard. Excusez-moi. Bon, Bernard. On a appris par la presse que tu étais dernièrement dans les bureaux d'Orange. Et on a appris aussi par des indiscrétions que Direct 8, et ça on posera aussi la question au secrétaire général de la Fédé, que Direct 8 était intéressé pour retransmettre des matchs de rugby à 13. Alors on voulait savoir si Direct 8
va retransmettre ou non une rencontre cette année des Dragons. Voilà.
Alors, elle est posée par Damien qui est de Nice.
Très bien, Damien de Nice. Donc, Direct8 ne retransmettra pas de match des Dragons puisque Orange a les droits pour deux années encore, c'est-à-dire 2010 et 2011, a les droits de la part de la RFL par la voix de IMG, a les droits donc des matchs des Dragons. Ce que a négocié la fédération en parallèle avec nous, avec les matchs des Dragons, c'est que Direct 8, qui est intéressé par le rugby à 13, donc je veux dire, quand on sait d'où on vient, il est heureux de savoir que de nouvelles télé s'intéressent au rugby à 13. Donc Direct 8 s'intéresse au rugby à 13 et Direct 8 a négocié une coproduction sur les trois matchs, sur les deux finales, je crois.
Sur les deux finales
du championnat et de la coupe, et je pense sur les trois matchs, les quatre matchs de la Coupe d'Europe, de l'équipe de France au mois d'octobre-novembre. Voilà ce qui nous a été. Voilà. Donc Hervé peut-être en sait plus que moi. Voilà.
Oui, exactement, avec Direct 8, le 12 juin dans France-Angleterre, qui se jouera en Angleterre, et ensuite les trois matchs de la Coupe d'Europe qui auront lieu dans la saison prochaine entre le mois d'octobre et le mois de novembre 2010. Voilà, tout simplement. Au niveau de l'annonce officielle, encore rien n'a été fait. Bon, le président Lara l'a annoncé samedi dernier à l'Assemblée Générale Financière au président du club présent. En disant bien, en précisant bien que lui officiellement encore n'annonçait pas cette nouvelle, mais laissait la chaîne, c'est la chaîne Direct 8 qui va annoncer tout cela officiellement. Bon, il faut savoir que tous les gens connaissent quand même la TNT, Direct 8, c'est quand même un audimat extraordinaire pour le rugby à 13. Je sais que en somme Direct 8 retransmet les matchs, je crois, de l'équipe de France féminine de rugby à 15. Ils sont aussi sur d'autres sports. Et c'est quand même une chaîne qui fait régulièrement un million d'audimat en foyer, quoi. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Et imaginons la chance que nous allons avoir, le rugby à 13, de passer sur cette chaîne pour les matchs déjà de l'équipe de France. Je crois que c'est aussi l'image de la fédération. On a besoin de ça. La Coupe d'Europe est quand même cette année, c'est à la portée de l'équipe de France. Il faut savoir que nous allons recevoir l'Irlande, l'Écosse et le Pays de Galles. Ça va être officialisé dans les jours qui suivent. C'est nous, fédération, qui allons avoir organisé ces matchs en France. Donc c'est quelque chose quand même d'énorme pour la suite du mouvement. Et imaginons si un million de personnes à chaque retransmission vont connaître le rugby à 13, enfin, en dehors des initiés déjà qui connaissent. Oui, voilà, donc c'est quand même quelque chose, c'est une télé, la TNT, c'est quelque chose, c'est vrai que nous en parlions depuis de nombreuses années, bon, c'est pas facile à y rentrer, on vient d'y mettre le pied, et je crois qu'après, tout va suivre derrière, et les Dragons vont profiter aussi, les Dragons, les clubs d'élite vont profiter aussi de cette chance.
Ce que je voudrais rajouter un petit peu sur à la question, c'est que quand vous posez la question sur que va faire Orange avec les Dragons, je pense que j'ai passé 4 heures dans les salons d'Orange Sport lundi à Paris, et j'ai été très réconforté par l'envie de cette chaîne à promouvoir le rugby à 13. Il faut quand même savoir que cette chaîne n'a aujourd'hui qu'un an et demi d'existence, donc c'est très peu. Que cette chaîne avait encore 7-8 mois en arrière 30 heures de direct par semaine. Ils en sont aujourd'hui à plus de 80 heures par semaine de direct, puisqu'ils essayent justement de faire un maximum de direct. Et nous réfléchissons déjà avec la chaîne Orange aux saisons futures. C'est-à-dire que cette chaîne va se développer, elle en a le souhait, elle en a l'ambition. Il y a quand même des gros moyens derrière, parce que c'est quand même Orange qui est derrière. Et j'ai trouvé des gars fort sympathique déjà et très ouvert au développement du rugby à 13. Alors quand on sait d'où on vient et que cette chaîne aujourd'hui prend en charge toute la production et prend en charge tous les moyens techniques et tout le côté financier, je dis que nous avons quand même la chance d'avoir derrière nous une télé qui peut-être dans les années à venir j'en ai l'impression, je suis parti avec cette impression lundi de Paris, que Orange Sport va devenir un petit peu la chaîne concurrente d'un petit peu de Canal, hein, et veut faire du rugby à 13 un de ses sports majeurs.
on réfléchit aussi peut-être déjà, alors je ne vais pas la laisser une scoop ce soir, mais on réfléchit peut-être à d'autres heures, hein, à voir un petit peu comment on pourrait essayer de créer un feuilleton mmh. Régulier, toutes les semaines, tous les 15 jours, avec un match des Dragons, un match de Super League, un match des Dragons, un match de Super League. Donc ces gens-là sont très intéressés, et il faut savoir qu'il y a un audimat, il y a un audimat plus important que ce que l'on croit dans la partie nord de la France, qui regarde beaucoup Orange
Sport. Oui, parce que c'est une chaîne sportive, bon, c'est une chaîne, bon, c'est vrai, à vocation au départ footballistique, hein, bon, mais c'est vrai que de plus en plus des gens qui se retrouvent en train de regarder un match de football restent devant un match de rugby à 13 et ils découvrent, ils en parlent à leurs proches, et c'est vrai que ça crée une dynamique très intéressante. Et moi, je pour rebondir sur ce que vient de dire Bernard, il faut aussi, nous en tant que fédération, saluer quand même l'heureuse initiative de cette chaîne Orange, qui a quand même acheté les droits pendant 3 ans, donc à nous financièrement, Fédération et Dragon Catalan, ça nous soulage parce que après chaque production, faire un chèque, bon, on veut bien, on le fait avec mille plaisirs puisque c'est la promotion du sport, mais c'est vrai qu'il faut saluer le courage et vraiment ce que fait Orange Sport et ce qu'ils vont encore faire pour le rugby à 13 ans.
Alors, ce que j'ai demandé à Orange, c'est justement de communiquer un petit peu mieux. Alors Orange est en train de préparer un communiqué que nous chargerons, nous, de distribuer, de communiquer. Je pense que nous allons être le relais, nous, de cette télévision qui a beaucoup d'ambition à Paris, mais qui peut-être régionalement chez nous n'a pas la communication qu'il faut. Donc à nous, à notre charge, à nous, eh bien, de dire exactement, de rassurer les abonnés, de dire comment on peut s'abonner, de dire de quand est-ce que seront programmés les matchs, quand est-ce que seront rediffusés les matchs en différé. Il est important qu'on communique fort et que le téléspectateur sache, eh bien, qu'avec Orange, il a de l'avenir, que le rugby à 13 a beaucoup d'avenir avec Orange Sport.
Voilà. Oui, Bernard, enfin, pour rebondir un petit peu encore une fois avec Orange, parce que Orange, quand même, il y a beaucoup de frustration de la part des supporters, parce que encore une fois, ils ont annoncé le match contre Saint-Hélens dimanche matin à 9h du matin. Alors effectivement, on a du mal à comprendre comment une chaîne qui s'intéresse comme ça au rugby à 13 nous balance à 9h du matin. Et pour terminer, on n'arrive pas à comprendre non plus, s'ils s'intéressent au rugby à 13 et à l'équipe de France, ça sera télévisé en même temps, produit par Orange et par Direct 8, pourquoi il n'y aurait pas un match des Dragons qui ferait la même chose, c'est-à-dire ça serait sur Orange et sur Direct 8. Voilà, parce que alors effectivement Orange, on a appris aussi dans les milieux spécialisés que Orange Sport allait peut-être sur la TNT. On a appris ça aussi. Bon, enfin, tout ça c'est très intéressant. Alors on se demande, nous encore à Perpignan, on n'est pas frustrés, mais je pense à tous ces gens de Lille, de Nice, qui ne peuvent pas venir. Ben, ils attendront demain matin, dimanche matin à 9h. Voilà,
je sais bien, René, mais il faut quand même savoir que le samedi à 18h30, on est en plein carrefour, des sports majeurs. Donc il est très difficile pour une chaîne, même comme Orange Sport aujourd'hui, hein, de pouvoir nous passer en direct. Alors, nous aurons du direct à partir du mois de juin. Il est prévu du direct à partir du mois de juin, quand la Ligue 1 de football va prendre ses congés. Donc je pense que pendant deux mois et demi, nous serons en direct. Et le match différé du lundi matin, effectivement. Du dimanche matin ou du lundi matin ?
Dimanche matin.
Du dimanche matin. Mais d'accord. Moi, j'aimais bien le match différé du dimanche matin
aussi,
de Sport Plus à l'époque, parce que.
Qu'on intérêt, enfin, moi, personnellement, ça me frustre, quoi. Non, mais tu es obligé de faire attention aux gens qui t'entourent en leur demandant, surtout ne me dis pas le score.
Non, je pense que non, c'est même pas une question de score, c'est que même nous qui sommes, même pour les 9000 supporters qui sont au stade, revoir le match le lendemain, on le revoit sous un autre angle, on le revoit différemment, ça, oui. et moi j'apprécie énormément de revoir le match le lendemain. Bon, alors, mais c'est une avancée énorme. Ce que je voudrais dire simplement aux trésistes, aux amis trésistes qui nous regardent et que je comprends et qui disent qu'il n'y en a jamais assez et tout, mais j'ai pris quand même la dimension, vous savez, j'ai pris la dimension de notre sport à Paris, j'ai pris la dimension des autres sports également, et on ne s'imagine pas, bien entendu, chez nous ici, dans notre microcosme trésiste, hein, qu'est-ce qu'on représente aujourd'hui, malheureusement, et je pense qu'il faut être objectif, et logique. Vous savez, je crois que la plus belle des preuves, c'est le handball. On dit qu'il faut gagner pour qu'on soit vu. Mais regardez bien le handball aujourd'hui. Le handball, depuis 20 ans, a tout gagné. Il est le sport collectif qui a gagné le plus de, qui a remporté le plus de titres depuis 20 ans et qui n'est pas plus médiatisé que nous, le rugby à 13. Donc, à un moment donné, il faut savoir qu'il y a des...
Proportionnellement, oui.
Mais
ne serait-ce que la finale du championnat du monde est sur France 2.
Parce que c'est un événement mondial international.
Mais nous, si on va en finale du championnat du monde, ne sera pas sur France 2.
Peut-être oui.
Le choix de 18h30, alors. On ne comprend plus, là. Zoulou,
alors, mais,
un internaute nous disait pourquoi alors, le choix de 18h30.
Justement, le choix. Alors, 18h30, pourquoi ? Parce que c'était l'habitude de la saison dernière. Et que peut-être Orange Sport, qui est en pleine mutation, en pleine création, n'a peut-être pas réalisé avant qu'on pouvait peut-être modifier l'horaire de nos matchs. C'est pour ça que je vous dis, et je ne lancerai pas un scoop ce soir, mais je dis simplement qu'on réfléchit à peut-être l'année prochaine modifier le jour et voir l'heure du match pour créer en direct ce feuilleton du rugby à 13 dont on a grandement besoin pour que le téléspectateur s'habitue au rugby à 13. Je veux dire, on part de tellement loin, on part de très loin, hein, il faut gravir tous les échelons les uns après les autres. Je pense qu'on est dans une bonne dynamique aujourd'hui avec Orange.
Le problème, c'est que le trésor est impatient, ce qui est légitime, depuis le temps qu'on attend de la visibilité et puis qu'on avait quelque chose qui tenait la route avec Sport Plus, là on rétrograde quelque part, même si les enjeux financiers sont quand même importants et il faut faire attention.
Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on rétrograde, je te dis franchement, je ne suis pas sûr. Compte tenu de ce que j'ai entendu lundi et compte tenu un petit peu de l'avenir de cette chaîne, de ce qu'annonce cette chaîne pour les années à venir, peut-être que c'est aujourd'hui un mal pour un bien demain et que peut-être nous serons bien mieux traités demain parce que cette chaîne va prendre de plus en plus de notoriété. Voilà. Moi aussi, bien entendu.
René, dernière question avant de passer à autre chose.
On va la poser aussi à Damien. Alors, c'est une question. À Louis. On va passer à Louis. Alors, Damien, c'est celui qui posait la question.
Ah, c'est Damien. D'accord.
Alors, à Louis. Alors, Louis, est-ce qu'il y aura un tome 2 du livre Le rugby à 13
C'est pas de la télévision, ça. C'est
énorme, mais on va changer un petit peu. Ouais, maintenant. Je crois que Bernard a bien répondu. Hein. Ouais, alors, s'il y a un tome 2 de ton bouquin.
Oh, non, c'est pas un feuilleton que j'écris. Le problème, c'est que pour écrire, d'abord, il faut avoir du temps. C'est pas l'envie qui manque, mais c'est le temps. Et quand on est impliqué, il faut avoir un recul aussi par rapport aux événements. Et ce recul, lorsqu'on a la tête dans le guidon, Bernard écrit l'histoire des dragons, mais d'autres l'écriront pour lui, parce que lui, il ne peut pas en même temps l'écrire, la construire, la financer. C'est pas possible. Donc, je crois que quand le temps me le permettra, parce que ça m'intéresse aussi, il faut remuer des tonnes d'archives, des tonnes de papier, pour quand même, lorsqu'on dit quelque chose, lorsqu'on affirme quelque chose, il faut se baser sur des faits réels. C'est pas des romans feuilletons qu'on écrit, c'est des documents qui resteront dans l'histoire, comme il y en a. Et on s'aperçoit que il faut combler des vides et pour trouver le petit détail, souvent le prénom d'un joueur, ou sa date de naissance, ou sa date de décès. Pour être très précis, c'est très compliqué. Ça prend peut-être. Il y en a, on n'a pas encore trouvé depuis 1934 leur date de naissance et leur date de décès. Donc vous voyez, c'est pas simple. Donc du travail, il y en a. Il y a l'actualité qui est très vivante du rugby à 13 parce qu'elle est vivante, diversifiée. Il y a l'aspect international, l'aspect national, l'aventure des dragons, l'aventure de Toulouse. Alors tout ça, ça construit l'histoire et cette histoire, il faut bien la figer à un moment donné pour que quelque part elle reste. Mais bon, il faut du temps. Alors j'ai fait un peu, moi, comme d'autres, j'espère faire autre chose un jour.
Bon, écoutez, moi je vais être plus simple. Alors c'est oui ou c'est non ?
Parce que finalement,
c'est un homme politique, je dirais.
Je voudrais, oui. Voilà.
Bon, alors voilà, la fameuse question de Damien à Bruno. À Bruno.
C'est indispensable, la suite.
On continue. Alors, la fameuse question de Damien à Bruno. Pourquoi France Bleu ne retransmet pas les matchs des Dracs à la maison ?
Très bonne question. C'est vrai que ça avait été la politique de la radio en 2006, lors de la création de la première année des Dragons Catalans à Gilbert Brutus. Et puis le fait que tous les matchs soient télévisés à l'époque sur Sport Plus, eh bien, la France Bleu n'avait pas jugé nécessaire le fait de retransmettre les rencontres à domicile. Mais c'est revenu d'actualité depuis 2-3 mois. Donc pourquoi pas d'ici la fin de l'année retransmettre tous les matchs à Brutus des Dragons et comme ça, c'est-à-dire retransmettre toutes les rencontres de la saison des Dragons, ce qui serait logique forcément puisqu'on on fait le gros effort d'y être à l'extérieur, donc pourquoi ne pas y être à domicile, on travaille dessus.
D'accord, très bien. Alors une autre question de Bob de Carcassonne. Il se demande comment tu fais pour tenir tout un match. Parce que bon, il faut que tu saches quand même qu'on est, tous à, pour le match des Harlequins à 15h, on est tous sur Radio France aussi. Alors, sur Internet, puisqu'il diffuse sur Internet, ou sur la radio. Donc on vit tous, on commente en même temps, on écrit en même temps que ce que tu commentes. Alors, comment tu fais pour tenir tout un match, voilà.
Non, mais c'est tellement plaisant que, et puis ça va tellement vite, c'est facile de relater ce qui se passe, c'est chose que je serais incapable de faire à 15, parce qu'il faut combler tout le temps, mais à 13 c'est tellement facile de relater tout ce qui se passe régulièrement.
Comment montage,
j'ai l'impression. Donc voilà, je trouve pas l'exercice plus difficile qu'un autre, mais c'est vrai que pour moi c'était beaucoup plus facile de faire le premier match avec Christophe Lévy à Wakefield.
Ça c'est du politiquement correct, les joueurs m'ont dit qu'il était chargé, mais bon, on va passer au-dessus, ça ne nous regarde pas. René, on va arrêter un petit peu les questions, on va s'accorder un peu le temps pour parler du championnat de France également, ça va intéresser Hervé principalement, Louis, puis tout le monde tout, finalement. Hervé, cette première partie, ou plutôt cette moitié de partie du championnat d'élite 1, avec Lézignan qui est en tête, est-ce que c'est une surprise ou pas vraiment?
Non, pas vraiment, cela confirme la saison dernière. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, dans le beau département de l'Aude, bon, il y a trois clubs qui marchent bien, parce qu'au-delà des performances de Lézignan, il faut relever aussi celles de Limoux et de Carcassonne. Bon, il y a en ce moment... Beaucoup d'envie dans ce département. Est-ce aussi ces projets qui sont dans les tiroirs de beaucoup de dirigeants trésistes, d'essayer de faire comme Toulouse, un jour une équipe nationale Ligue 1 dans le département, pourquoi pas, bon. Donc non, le championnat est le reflet actuel du rugby à 13. Moi, je lisais encore aujourd'hui sur le site fédéral une intervention du joueur de Carcassonne, bon, qui est du joueur australien de Carcassonne, qui arrive d'Australie et qui trouve qu'il y a de bons matchs, qu'il y a un excellent niveau aussi en l'air. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier tous ces garçons qui se battent tous les dimanches au niveau de l'air, ces présidents aussi qui souffrent. Si j'en parlais la semaine dernière, bon, qui ont à vivre depuis 4 ou 5 ans l'apogée des Dragons catalans et qui se sont retrouvés du phare de la fédération un peu dans l'oubli, dans l'ombre. Et c'est vrai que pour nous, fédération, c'est pas très très facile, très 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 facile à gérer. Mais c'est vrai que nous aussi, en tant que fédération, nous devons réfléchir et nous pencher sur ce championnat de l'Aller qui n'a pas toujours l'envergure souhaitée au niveau média, au niveau couverture média, au niveau public, bien que l'on ait vu cette année deux excellentes finales avec des affluences exceptionnelles. À Carcassonne, je n'avais jamais vu autant de monde. À Albi, pour la finale aussi, Carcassonne-Limoux, il y avait beaucoup de monde. Donc je crois que ce championnat a le mérite d'exister. Il faut que nous, fédération, nous trouvions encore les moyens de le mettre plus en avant. Et je crois qu'on s'y emploie. Le président a écrit cette semaine, pas plus tard que cette semaine, à tous les présidents des clubs d'élite, les présidents des ligues et des comités. Il les invite à une grande journée de rassemblement dans le mois prochain pour réfléchir justement sur l'avenir du championnat pour la saison prochaine. Alors on va prendre les avis de chacun, tout le monde va nous écrire et nous, à partir de là, on va essayer de réformer ce championnat. Je crois qu'il y a pas mal de choses à faire. Je me souviens il y a 7 ou 8 ans ou peut-être plus loin, 10 ans, il y avait une poule des As qui avait fait un début de championnat à beaucoup de monde. Deux, trois saisons, ou pourquoi pas trouver les deux premiers ou les deux finalistes je vous dis en ce moment, bon, moi je réfléchis aussi, de la poule des As aurait droit à l'accès en Coupe d'Angleterre. Bon, il y a beaucoup de des choses intéressantes qui peuvent intéresser dans les supporters qui vivent aussi dans leur ville, qui sont des supporters. Il n'y a pas que les Dragons catalans, c'est vrai, donc eux aussi les intéressés. Bon, moi je vois encore hier soir, il y avait le tirage de la Coupe d'Angleterre, j'ai eu énormément énormément d'appels hier soir, des gens de Limoux, de Carcassonne, de Lézignan, qui étaient impatients de savoir contre qui ils allaient jouer. Donc tout cela est intéressant, cela prouve qu'il y a de la vie aussi dans le monde trésiste, dont ce championnat à l'air mérite justement aussi peut-être un peu plus de reconnaissance, et c'est à nous, Fédération, d'accompagner ce projet.
On va faire un petit tour de table très bref pour savoir un peu qui donne favori cette année, pour vous, qui est le favori de cette année pour le titre. Lézignan était forcément le champion l'an dernier. Est-ce que pour toi, Hervé, c'est pratiquement incontournable? Est-ce que Lézignan est vraiment le grand favori de la compétition?
Moi, je suis mal placé en tant que secrétaire général pour
mais spontanément,
pour avoir un avis spontanément. Moi, je suis au doigt. C'est vrai que les trois clubs de l'Aude, je pense, ont des chances d'arriver en finale. Bon, Pia aussi a fait un très très bon recrutement. Et il y a cette équipe de l'UTC avec beaucoup de jeunes qui méritent aussi qu'on y prête beaucoup d'attention. Mais ils s'éloignent. Bon, ils sont dans une spirale de défaite, mais vous savez, les défaites stoppent un jour ou l'autre, et il y a quand même la valeur des joueurs. Bon, je ne donnerai pas d'avis sur les finalistes. Je profite de l'occasion pour vous dire donc. Je me suis rendu là il y a 15 jours en Avignon, où il y aura la finale de la Coupe de France, dans le 2 mai, où on sent derrière le club d'Avignon qui est derrière, avec toute une population et toute la région PACA qui est prête à accueillir cet événement, parce que c'est un événement pour eux. Donc je pense qu'il y aura une très bonne finale en Avignon. Et j'ai eu la chance d'aller au stade Yves du Manoir la semaine dernière, où j'avais rendez-vous donc pour faire les repérages donc pour la finale du 29 ou du 30 mai, qui aura lieu donc à Montpellier. D'accord. Et là aussi, tous les critères, tout est réuni pour qu'il y ait une très belle finale. C'est un stade de rugby. J'ai fait connaissance à ce stade, 12 000 places, un stade vraiment magnifique pour travailler. Donc ce jour-là, je crois que ça peut être aussi l'événement, et que les trésistes se retrouvent à Montpellier ce jour-là. Et là, en aparté aussi, ce que je disais Bernard, comme disait Bernard tout à l'heure, il faisait un appel aux supporters. Moi, je tiens à faire aussi un appel aux supporters trésistes. Au bout d'un moment, il faut aussi oublier qu'on est supporter d'un club pour ces finales, on est supporter du rugby à 13, et ce jour-là aussi, il y aura du monde, il y aura des télés. Donc c'est à nous à montrer notre force, et oublier ce jour-là qu'on n'est que supporter d'un club, mais qu'on est supporter du rugby à 13, et pour montrer qu'on est supporter, il va falloir se déplacer en Avignon et à Montpellier.
Bon, j'avais parlé d'un tour de table très bref, c'est compliqué avec Hervé Guiraud.
Excusez-moi.
Bruno, toi, ton grand favori pour cette saison 2010 en Elite 1?
Ben moi, je vois Lézignan défendre son titre sur ce qu'ils ont prouvé sur la phase aller, une seule défaite à Carcassonne face à l'équipe de Patrick Alberola, qui collectivement, c'est vrai que Carcassonne a eu de grosses difficultés au niveau de l'effectif, il a manqué du monde, ils arrivent quand même à bien se positionner et à faire tomber l'équipe de Lézignan. Donc moi, je vois que peut-être Carcassonne défendre son bien en Coupe de France, pourquoi pas Villeneuve qui puisse sur un match ou deux faire un petit coup en coupe. Mais je vois, j'ai du mal à voir une équipe empêcher Aurélien Colonier-Séga à relever une nouvelle fois le bouclier.
Bernard Young.
Mais bon, mon cœur balancerait un peu pour Carcassonne. Voilà, puisque bon, j'ai eu la chance de jouer 2 ans là-bas à Carcassonne. Donc ce serait un plaisir pour moi de les voir arriver au bout. Et autre chose, j'ai reçu un SMS de Eddy Donand qui me dit pourquoi ma question n'a pas été retenue par Monsieur Montana. Monsieur Eddy Donand qui me demande pourquoi ma question n'a pas été retenue par Monsieur Montana.